With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans Ensoum Soum. Donc vous savez, on va dans les entrailles des sports de combat, dans les entrailles du MMA. Preview détaillée de l'UFC 274 avec Chris, avec Big Rusty. Générique. Soit.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
On va commencer directement avec ce qu'on attend tous. Le dernier combat de Tony Ferguson à l'UFC. Parce que oui, après, bye bye, retraite, c'est terminé.
Attends, pourquoi tu commences comme ça là?
Je sais pas, j'ai envie de gâcher la fête les gars. Alors Chris, que peut-il se passer? Surtout qu'en plus, vous allez voir que moi j'ai une autre théorie à ce sujet là. Je pense que Tony Ferguson va s'en sortir face à Michael Chandler. Et oui les gars, on en parlait avec Chris juste avant l'émission. Chris, toi, que penses-tu de ce choc? Est-ce que tu te dis que finalement, Tony Ferguson, il était tombé sur des adversaires précédemment qu'il ne les laissait pas rentrer dans son combat et que là, avec Michael Chandler, il aura peut-être plus d'occasion de s'exprimer, ou au contraire, c'est tout simplement le choc de trop pour Tony Ferguson, El Cuco, oui.
Alors, pour moi, effectivement, Tony Ferguson n'est pas en déclin. C'est pas parce qu'il est sur 3 défaites d'affilée qu'automatiquement, il est après son prime. Alors oui, évidemment, il commence à prendre en âge et en âge de carrière aussi, mais il vient de perdre contre 3 combattants qui ont su simplement gérer son flow state, qui ont su gérer son style chaotique. On a Justin Gaethje qui a su contrôler sa violence et être violent par lui-même avec son footwork et avec son excellent timing et en cassant chaque fois son rythme. Et puis on a eu Charles Oliveira et Dariush qui ont simplement su rendre le combat dans une structure et une dynamique contrôlée en l'amenant au sol et en le contrôlant au sol. Il n'y a aucune honte à perdre contre Justin Gaethje de la manière dont il a perdu. Il n'y a aucune honte à avoir perdu contre le champion actuel par décision qui plus est. Et il n'y a aucune honte à avoir perdu contre Beneil Dariush qui était absolument dans son jeu et qui est même sorti en fait de ce côté chaotique qu'il a aussi de temps en temps. Il n'a pas voulu jouer à pile ou face avec Tony Ferguson, ce qui montre qu'il avait du respect pour lui. Il a suivi le blueprint qui avait été défini par Charles Oliveira. Donc, c'est trop tôt pour dire qu'il est en déclin. Par contre, effectivement, on est chez les lightweight, on est toujours dans le top 10, donc t'as aucun combat facile. Et Michael Chandler, c'est un gros challenge et c'est un combat qui me semble assez bizarre sur papier. J'arrive pas à analyser, j'arrive pas à concevoir la dynamique qui va y avoir entre les deux. Ce sont deux distances différentes. C'est un style plus explosif contre un style plus étouffant et à l'avance, c'est vraiment impossible en fait de dire ce qui va se passer. Encore une fois, c'est ça toute la beauté du MMA.
Mais pareil, je sais pas pourquoi j'arrive pas à imaginer le combat en fait. Mais pareil, je suis incapable de l'expliquer parce que ça pourrait très bien se terminer en un claquement de doigts et en moins d'une minute. C'est fort possible parce qu'on sait qu'il a besoin d'un petit peu de rodage aussi, Tony Ferguson. Et si Chandler nous fait ce qu'il a fait contre, comment s'appelle-t-il, Zut,
Hooker,
exactement, c'est absolument pas en dehors des possibilités. De toute façon, Tony Ferguson est connu pour encaisser vite, mais seulement c'est qu'il se relève. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi le kilométrage qui arrive. Donc, si ça se trouve, cette fois, ce sera la fois où il se relève pas, peut-être, on n'en sait rien et on n'espère pas. Mais c'est vrai que debout, ça peut être très bizarre parce qu'on sait que le striking de Tony Ferguson, bon, il a besoin de rentrer dans un état de flow, tu l'as dit, et il est très créatif. Il peut combattre en avançant et il peut combattre en reculant, mais et en continuant à envoyer, des trucs de tous les côtés, des trucs venant du bas, des côtés, des directs. Enfin, c'est assez. Il est tellement créatif que ça devient difficile de le cerner quand tu essaies de le gérer. Mais pour Chandler, c'est vrai que je me dis, bon, bah, du coup, soit il va essayer de l'exploser en deux minutes, ce qui est fort possible. C'est un 3 rounds en plus, du coup.
C'est 3 rounds.
Ouais. Donc Chandler sait que c'est un 3 rounds et que du coup, il peut, entre guillemets, appuyer un peu plus sur la pédale d'accélérateur que si c'était un truc où il se dit, bon, si jamais je l'éclate pas tout de suite, ça peut durer, ça peut s'éterniser. Et là, c'est pas bon du tout de s'éterniser contre Tony Ferguson en étant un petit peu dans le mal. Donc, soit il va y aller full blast et il va essayer vraiment de tamponner directement Tony Ferguson. Et ce n'est pas une stratégie qui est délirante, hein, parce qu'il a les armes largement pour le faire. Soit il va peut-être, je ne sais pas, essayer d'utiliser sa lutte en se disant, bah, justement, pourquoi pas, si c'est ce qui me permet de gagner. On sait que c'est Chandler, il va être spectaculaire, mais rien ne l'empêche d'enclencher un ground and pound de l'enfer et de faire un petit KO. Mais c'est vrai que, pareil, j'ai du mal à l'imaginer. Ça peut aussi être Tony Ferguson qui arrive à survivre les premières secondes et qui enclenche ce qu'il sait faire de mieux, ce qu'il a fait avec brio contre tous les Rafael Dos Anjos et consorts. On va voir, mais inconnu, grosse inconnue.
Voilà, moi je partage ton avis. Je pense que Tony Ferguson, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans un état de flow, d'installer son rythme, et qu'à chaque fois, forcément, il y a ce premier round où c'est un petit peu compliqué pour lui. Il en profite pour se cadrer, voir un petit peu ce que l'adversaire propose, et puis ensuite il commence à prendre la mesure de son adversaire, et puis petit à petit, les deux dynamiques se croisent et Tony Ferguson s'impose. Lors de ses derniers combats, il n'avait pas pu rentrer justement dans l'état qui lui permet à chaque fois de s'imposer, ce qui avait été un peu difficile. Et c'est pour ça que moi je pense que si Tony Ferguson ne se fait pas mettre KO dans le premier round, il va gagner face à Michael Chandler. Parce que Michael Chandler, durant toute sa carrière au Bellator, et même dans sa carrière à l'UFC, c'est vrai qu'il y a un premier round où il arrive à faire un petit peu ce qu'il veut, mais il y a toujours des difficultés à gérer un petit peu ses explosions athlétiques. Et puis ensuite, c'est un petit peu plus compliqué si l'adversaire est toujours là. Et je pense que contre Tony Ferguson, ce sera encore plus vrai cela. Et c'est un combat où les deux vont avoir leur chance, mais, et c'est pas un petit mais, si Tony Ferguson venait à s'incliner face à Michael Chandler, là, pour le coup, moi, je mettrais vraiment la case déclin serait cochée, tu vois, parce que ça veut dire que Tony Ferguson, qui était capable d'encaisser des punitions, ou même, en dehors de punitions, beaucoup de dégâts, regardez même le combat contre Donald Cerrone, où il s'est quand même pris pas mal de coups, bah, ça voudrait tout simplement dire que Tony Ferguson, à 39 ans, n'est plus là désormais aujourd'hui.
C'est clair qu'une partie de son jeu est basée sur sa capacité à encaisser et à rester proactif et compétent dans un combat. Donc, peut-être aussi que le combat contre Gaethje, c'était trop de dégâts et que ça casse un peu cette capacité à en encaisser autant. Et effectivement, je pense que 4 défaites d'affilée, on va pas se mentir, c'est soit qu'il est en déclin, soit que son style ne fonctionne plus, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé, et qu'il n'est pas capable de modifier son style pour rester à jour avec la nouvelle ère des combattants. Donc ça peut être l'un comme l'autre. Et ici, il y a aussi une petite inconnue pour moi dans ce combat qui est intéressante, c'est l'ego de Michael Chandler. On ne sait pas s'il va vouloir venir pour un nouveau Fight of the Night, ce qui pourrait jouer en sa faveur, comme l'a dit Rust et toi d'ailleurs dans le premier round, mais ça pourrait très rapidement jouer en sa défaveur une fois que Tony Ferguson s'installe. Ou alors, est-ce qu'il vient pour lutter? Parce que si Darius et Oliveira ont montré qu'ils étaient capables de gérer Ferguson au sol, je pense qu'il sera capable de l'amener au sol. La seule différence, c'est que lui, c'est un power shooter, donc il va shoot de très loin de manière explosive dans les jambes, ce qui fonctionne pas toujours super bien contre des scramblers comme Tony Ferguson, alors que Charles Oliveira et Benil Dariush, ils venaient plutôt chercher l'entrée en gréco-romaine, et avec le body lock, venaient amener au sol, ce qui permet de directement empêcher la plupart des scrambles possibles et de contrôler directement dans une position avantageuse, avec notamment la demi-garde.
Big Rusty.
Ah ouais, carrément.
Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ça?
Pas grand chose à ajouter, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que on n'a jamais vu, en plus de ne faire beaucoup, c'est vrai, en lutte que des entrées explosives, on l'a jamais vu faire de lutte. Je crois, hein, moi je me trompe, mais on l'a jamais vu faire de vraies luttes en enchaînement, en plus Michael Chandler. Non. Et du coup, bah, c'est vrai que ça pourrait être très compliqué. Mais ouais.
Surtout après, qu'il voilà. Nous a pas non plus impressionné lors de son dernier combat contre Justin Gaethje. Clairement, il y a plusieurs fois où il aurait pu jouer le combat pour le gagner, il s'est contenté d'être là pour le bonus. Et moi, ça m'a beaucoup frustré, tu vois. Et je me dis, un combat qui était à sa portée avec tous les enjeux qu'il y avait, quand je parle de tous les enjeux, c'est s'il gagnait, il aurait certainement eu un nouveau title shot. Le mec qui est capable de faire n'importe quoi, même quand son coach essaye de le recadrer, dans le sens où il n'était pas non plus livré à lui-même. Là, j'ai peur que contre Tony Ferguson, une nouvelle fois, il se laisse un peu embarquer par la Fight Week, par le délire des fans qui vont être là. Bah, ça va être la folie. Vous venez pour surtout nous régaler. Enfin, je pense qu'il y a un risque non négligeable qu'ils mettent un petit peu de côté le game plan pour faire la guerre, quoi.
Ouais.
Grave.
Ben voilà, messieurs. Est-ce qu'on passe directement au pronostic pour ce combat-là?
Ah, let's go.
Allons-y,
hein.
Allons-y.
Alors.
On connaît le tien. Connaît le tien déjà.
Ouais, non, bah, je dis oui, je. Tony Ferguson par TKO troisième round.
Ooh, hot take.
Hot take.
Moi, je trouve qu'ils sont tous les deux durables. Je vais partir sur premier, deuxième pour Chandler, troisième pour Ferguson, 29-28 pour Chandler.
Waouh.
Je vais dire ça en espérant me tromper de tout cœur. Mais je vais dire Chandler KO premier round.
Waouh. Oh,
c'est le genre de combat où on pourrait avoir une égalité.
Oui.
C'est le genre de combat où on peut avoir 2-19 pour un gars et 1-18 pour l'autre.
Ouais.
Et surtout qu'au niveau des cotes Unibet, Big Rusty, Michael Chandler est le plus gros favori de la carte, comme me l'avait fait remarquer Chris, avec une cote de 1-25 et 4 pour Tony Ferguson.
Wow.
The level of disrespect. Oh, bless you.
Jamais. Ça l'a fait éternuer. Jamais j'aurais cru voir Tony Ferguson avec un 4 à côté de son nom sur les côtes de Paris.
Ah ouais.
Les temps changent, messieurs, les temps changent. Bien, on avance un petit peu. On monte en intensité avec le co-main event. Rose Namajunas contre Carla Esparza. Les deux s'étaient affrontés il y a quelques temps de ça. Et là, c'est la revanche, tant attendu, pas forcément, parce que c'est vrai que Carla Esparza a dû faire preuve d'un peu de lobbying pour obtenir son title shot. Je le rappelle, un premier championne de l'histoire de la catégorie strawweight avant d'avoir perdu face à Johanna Jędrzejczyk, et elle est toujours présente. Messieurs, j'ai un petit peu peur pour Thug Rose. Est-ce que vous partagez cette petite crainte ou pas du tout, Chris?
La route vers la victoire pour Carla Esparza est assez claire et réaliste. On peut facilement imaginer Carla Esparza ne pas avoir trop de difficultés à amener Rose au sol et la contrôler pour gagner vers une décision. Ou éventuellement, ça m'étonnerait très très fort, avec un TKO via crucifix. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les juges sont de plus en plus axés sur les règles qui leur sont imposées, où ils alimentent davantage le dégât au contrôle. Et dans cette logique-là, j'ai quand même bon espoir pour Rose, parce que soit elle sera capable de dominer suffisamment debout avant de se faire mettre au sol, et ça lui permettra de prendre une avance suffisante qui ne sera pas rattrapée par le simple contrôle de Carla Esparza. On ne va pas se mentir, Carla Esparza, ce n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts au sol. C'est pas du tout une Tatiana Suarez. D'ailleurs, trop dommage qu'elle soit plus là, parce que ça aurait été vraiment extraordinaire comme combat. Et au sol, en plus de ça, je pense que Rose a une très bonne garde, une garde offensive autant sur les tentatives de soumission que sur d'éventuels coudes et tout ce qui s'ensuit venant d'en dessous. Donc je pourrais même la voir gagner des rounds en étant mise au sol très tôt dans le combat, sans pour autant savoir se relever. On voit carrément une amélioration chez elle dans la capacité à se relever une fois qu'elle est mise au sol. Sa lutte défensive s'améliore pas des masses, je trouve. Par contre, son footwork bien. Donc, ouais, combat assez bizarre avec pas mal d'issues possibles. Personnellement, je vois le trajet vers la victoire pour Carla Esparza, mais j'ai quand même beaucoup d'espoir sur une victoire pour Rose, que ce soit par finish debout ou simplement en gagnant les rounds de manière en mettant plus d'importance sur les dégâts que sur le fait qu'elle soit contrôlée sans se mettre dans un degré d'urgence de prendre des risques en étant en dessous.
Rost?
Ouais, bah c'est pareil, c'est-à-dire que en fait moi j'ai du mal à voir Carla Esparza réussir à exister debout face à Rose, et ça dépendra de la manière dont Rose, je pense, aborde le combat, mais en vrai, si si Rose met la pression, paradoxalement, qu'elle adopte un peu la technique Joanna Jędrzejczyk, qu'elle met la pression justement pour contraindre la lutteuse à soit faire des takedowns de panique, soit en tout cas voir beaucoup plus facilement ce qu'elle envoie en termes de mise au sol, bah, en fait, je pense qu'il y a un monde d'écart debout en termes techniques, en termes de rapidité, en termes d'impact, en termes d'intelligence, etc. Et je me trompe peut-être, effectivement, parce qu'on sait que, bah, déjà, premièrement, elle montre Carla Esparza, elle est sur, je crois, ses 5 victoires d'affilée, un truc comme ça. Bon, il y a des décisions qui sont un petit peu tendues, il me semble. Ouais, c'est ça, voilà, contre Michelle Waterson, Marina Rodriguez.
Rodriguez surtout,
ouais. Ouais, donc c'est un peu tendu. Elle a gagné son dernier combat par TKO, mais pour moi, c'est, même si elle a gagné son dernier combat avec, donc c'est point, je pense que vraiment ce sera, si elle reste debout, et je pense qu'elles resteront debout, je pense pas, et tu as évoqué le footwork, Chris, et je pense que justement il va y avoir une telle différence dans les déplacements, une différence d'intelligence, je vois bien une masterclass de Rose, moi.
C'est totalement possible. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que Rose repose quand même beaucoup sur ses kicks. Et Carla Esparza a vraiment une excellente capacité à attraper les kicks pour amener vers la lutte. Et donc, c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. J'ai presque envie de dire que sur les premiers kicks de Rose, on va directement voir si elle est capable de les envoyer sans que Carla puisse capitaliser dessus. Si oui, je pense que la route vers la victoire est même facile pour elle. Okay, mais si à ses premiers kicks, elle se fait amener au sol, elle risque de vouloir les enlever de son jeu et du coup qu'en anglaise elle peut gagner aussi, ouais, mais ce sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'elle devra plus exposer ses hanches aussi, rapprocher la distance, et encore une fois, ce sont des nouvelles opportunités de lutte réactive. Et comme tu le dis très bien, si elle met Carla sous pression au point où elle est en mode panique comme contre Johanna, elle va faire des takedowns télégraphés, ça va être facile à défendre, mais s'ils sont proactifs et réfléchis, ça va être beaucoup plus compliqué de les défendre.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Fuck yeah.
Wow, attention, parle bien s'il vous plaît. Messieurs, pronostic.
Bon les gars, c'est en 5 rounds. J'annonce une victoire par TKO de Rose Namajunas au troisième round.
Wow. Chris,
je sais pas pourquoi je le sens bien là. Ouais.
Alors, Rose, 49, c'est son 46.
c'est son troisième rematch à Rose. Les deux premiers rematchs, ouais, qu'elle a eu dans sa carrière, c'est victoire par KO au premier round et puis victoire à la décision. Ici, ce que je suis en train de dire n'a aucun sens.
Oui, ça n'a aucun sens. Oui.
Je sais pas pourquoi je pensais qu'elle avait gagné par décision. My bad, elle a perdu par soumission dans le troisième round, si je me trompe pas. Elle va gagner par KO dans le premier round. Bon.
Wow. Ah, attends, oui,
j'ai pas peur.
Kamoulox. Attends, mais wow. Et comment tu vois le KO, comment?
Un petit high kick.
Oh.
Mm-hmm.
Ah ouais.
La cote est à 1,50 pour Rose Namajunas, 2,70 pour Carla Esparza. Moi, je vois une victoire de Rose Namajunas par décision unanime. Voilà. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche, messieurs. Avançons avec un petit choc qui fait, on a déjà parlé, si vous arrivez ici, de Charles Oliveira contre Justin Gaethje dans le podcast de la semaine dernière. C'est le main event, ça va être de la violence, ça va nous faire plaisir. On sera en direct en plus sur Twitch avec Chris, avec Julien, ça va être très sympa. N'hésitez pas à passer un petit bonjour, mais surtout là, on va s'intéresser au choc entre les vieux briscards. Donald Cowboy Cerrone contre John Lozano. Donc voilà, Donald Cerrone, c'est vrai que c'est son dernier combat devait, en tout cas, il y avait de gros points d'interrogation sur la suite à donner à sa carrière. Finalement, là, ils le mettent enfin contre quelqu'un qui est un petit peu dans... Non, qui est pas vraiment dans la même phase que lui, mais en tout cas, quelqu'un qui est un vieux de la vieille. Et ça fait plaisir quand même pour Donald Cerrone, parce que, bon, l'UFC l'avait pas mal essoré. Puis lui aussi, c'est vrai que bah, il ne refuse jamais de combat, Donald Cerrone, ne prend jamais de pause. Donc ça avait fini par le desservir un petit peu. Chris, que penses-tu de ce combat-là? Est-ce que tu penses qu'enfin, Donald Cerrone va ouvrir les compteurs et puis pouvoir partir la tête haute de l'UFC?
Alors, ma première réaction quand le combat a été annoncé, c'était « Quoi ?» Et après, ouais, j'ai vu à mon poignet que j'avais une montre connectée. Et puis, je me suis dit « Mais attends, les montres connectées en 2011, ça n'existe pas. » Et puis, je me suis rendu compte qu'on était en 2022 et j'ai fait « Oh !» Ok, il est fun le combat, mais c'est pas la même valeur que si on l'avait eu en 2011. Et c'est ce que je dis là, c'est quand même fou parce que c'est des combattants qui étaient vraiment au top. Enfin, je vais pas dire au top du top pour Joe Lozon, mais qui étaient vraiment très suivis et très respectés et très entertaining, divertissants en 2011. Ils sont toujours divertissants, mais évidemment, ils sont plus du tout au top de leur carrière. Ce qui est assez triste, j'ai envie de dire, c'est que Donald Cerrone n'a plus gagné depuis 2019. Joe Lozon n'a plus combattu depuis 2019. Et Donald Cerrone, depuis 2019, c'est 5 défaites et une égalité overturn parce que Nico Price, un peu de marijuana. Et donc, ce combat est assez intriguant parce que Joe Lozon est capable de gagner contre les meilleurs comme il est capable de perdre contre les moins bons de par son style qui est ultra explosif, ultra axé sur le risque. Et c'est tout là l'attrait que j'ai pour ce combat. Donald Cerrone a toujours galéré contre ceux qui commencent fort, parce que lui, il commence vraiment, vraiment lentement. Toutes ses défaites, Conor McGregor, Darren Till, Anthony Pettis, Rafael dos Anjos, quasi chaque fois au premier round. C'est très souvent au premier round. Après, il y a aussi des défaites sur le long terme.
Mauvais exemple.
Pourtant, il y en avait beaucoup des exemples. Joe Lozon, c'est quelqu'un qui commence super, super rapidement. Donc, j'ai l'impression qu'il va devoir survivre les 2-3 premières minutes du combat. Et s'il est survit, par contre, j'aimerais pas être à la place de Joe Lozon.
Voilà. Non, mais il y a littéralement genre 7 exemples.
Qu'il en choisit. Et choisit le pire. Non, je sais.
Mais en plus, pu même dire que... Ben Henderson à l'époque du WEC, leur premier combat, c'est guillotine au premier rang.
Mais oui.
Mais non, mais ça me fait chier. En plus, au moment
Getty.
Où j'ai dit...
Voilà, oui, Getty, oui.
Mais ouais, non, mais au moment où c'était sorti de ma bouche, je me suis dit, putain, quel con, j'espère que personne va relever. Et en fait, bah, si.
Le G est toujours là pour ça.
Toujours là.
Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu disais aussi.
Et donc voilà, si Joe Lozon ne parvient pas à ses fins dans les 3 premières minutes du combat, je pense que ça va être compliqué pour lui, à l'inverse où il va subir au final les compétences qui sont quand même encore existantes chez Donald Cerrone. Donc très chouette combat sur papier, un peu décevant qu'il ait lieu 10 ans après qu'il aurait dû avoir lieu, mais voilà, fun, j'ai encore regardé le dernier combat qui est une victoire pour Joe Lozon, qui était underdog de dingue dans ce combat, et c'était une performance incroyable. Mais après, tu regardes plus en avant, le mec a perdu contre Chris Grudsmacher, qui pour moi est le gars le plus accessible de la division. Chaque fois que je voulais signer quelqu'un à l'UFC, j'envoyais un mail à Sean Shelby en disant on peut mettre Donovan contre Chris Grudsmacher. Alors c'est manque de respect de ma part de dire ça. Il est quand même très durable et tout, mais je pense que c'est un mauvais indicateur par rapport à la carrière de Joe Lozon qu'un de ses derniers combats soit une défaite ultra mérité, où c'est son coin qui arrête entre le deuxième et le troisième round contre quelqu'un qui a toujours été à l'UFC. C'était genre le gatekeeper. Tu le bats, t'as ta place à l'UFC. Tu le bats pas, tu sors de l'UFC normalement.
Bah, t'avais quelque chose à ajouter, ouais. Grossi?
Bah, en fait, non, c'est simplement effectivement mettre vraiment surligner le côté. Ça dépend comment ils viennent, mais on tient deux gars qui sont, je crois, c'est dans les top 3 du nombre de bonus de performance de la nuit, donc que ce soit des performances of the night ou quand ça existait, du coup, KO de la nuit, soumission, combat de la nuit, etc. Donc, c'est deux gars qui, effectivement, même si on ne les a pas dans le prime de leur carrière, si ce n'est pas triste parce qu'on sent qu'ils ne sont physiquement pas là, ça peut faire un fight effectivement super fun. Du coup, c'est pour ça que on va espérer que ce soit ça et que quel que soit le dénouement, au moins, ça, ils pourront s'exprimer tous les deux, que ce sera technique. Et s'ils peuvent s'exprimer avec ces techniques, de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement que spectaculaire. Donc, ça peut être un super combat, en fait.
Et s'ils peuvent prendre tous les deux leur retraite à la fin de ce combat, ce sera apprécié par tout le monde aussi.
Ouais, grave. Ouais,
c'est le combat idéal pour prendre une double retraite, peu importe le résultat.
Limite un petit double KO à la limite, ce serait pas mal.
Alors messieurs, cote à 1,57 pour Donald Cerrone, 2,50 pour Joe Lauzon. Quel est votre pronostic? On va commencer par Big Rusty.
Je vais quand même mettre Donald Cerrone. Et parce qu'effectivement, je pense que s'il arrive à faire s'exprimer son kickboxing, je pense que ça peut être une belle victoire. Et du coup, je vais mettre Donald Cerrone par décision. Voilà.
Ok. Chris?
Cerrone, high kick, fin du deuxième round. Anthony Pettis a gagné. Bon, c'est pas les mêmes high kicks, mais Anthony Pettis, son high kick du gauche, était bien passé contre Joe Lauzon. Et j'ai l'impression que Joe Lauzon, après avoir été, après s'être fatigué dans le premier round, risque de commencer à subir. Et je peux voir. Donald Cerrone, pour moi, il est grave en déclin, mais son killer instinct est toujours là. Sa capacité à finaliser, à trouver les ouvertures est toujours présente. Et je pense qu'un high kick, peu importe ton âge, si tu le vois pas venir, tu fais dodo. Donc ouais, j'ai un petit feeling là-dessus.
All right. Et bien, pour ma part, victoire de Donald Cerrone également par décision unanime. Bien, voilà, messieurs, je sais pas si vous vouliez ajouter un petit mot pour le retour de Shogun Rua.
Pas du tout. Un mot légende, mais un deuxième mot, c'est...
Trop tard
Ouais.
Late Jones.
Là c'est terrible ce retour. En vrai, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi. Ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve ce genre de.
Ouais,
de
mais attends, là. Parce que en vrai, en fait, ce qui est terrible, c'est que.
Ah, bah, il y a moyen qu'il gagne en plus, là.
Ouais, c'est ça. En fait, je pense que là, tous autant qu'on est devant nos écrans, on assimile Shogun Rua à un gars qui faudrait juste plus qu'il soit dans la cage. Il encaisse des dommages alors qu'il est physiquement plus là. Mais le problème, c'est que sur ses 5 derniers combats, il y a une défaite contre Paul Craig, mais une victoire contre Antonio Rogerio Nogueira, une victoire contre Tyson Pedro, un nul contre Paul Craig, et une défaite contre Anthony Smith. C'est pas comme s'il était en mode BJ Penn 8 défaites d'affilée.
Non,
quoi. C'est ça qui est un peu terrible. C'est que, il a évidemment qu'il a sa place, c'est une légende, mais il n'est pas encore.
Il n'est pas encore aux fraises comme Rashad Evans sur la fin de sa carrière, par exemple. Mais c'est dommage. C'est vraiment, il y a clairement plus rien à faire pour lui, tu vois. Il n'y a plus rien à faire pour lui et l'UFC, mine de rien, ils le mettent à chaque fois contre des gars qui sont. Quand même des vrais noms, tu vois. Et c'est ça que j'aime pas du tout, tu vois, par le combat contre Little Nog, où là, il y avait. Enfin, clairement, c'était.
Il avait 40 ans, Little Nog aussi, donc.
C'était un beau cadeau d'adieu, mais sinon, le reste. Et puis, ça fait combien de fois qu'il dit qu'il va prendre sa retraite aussi?
Mais ça, c'est les fighters, ça, c'est normal.
Ouais, je sais.
Au moins 5 retraites par personne.
Mais voilà. En tout cas, c'est terminé pour nous. Messieurs, que pensez.
Ouais, il y a Chanel Royval.
Ah, pardon.
Pardon. Tes souhaits.
Elle est belle.
Alors, Chris, vas-y.
Ouais, je voulais juste parler de ce combat parce que moi, je le trouve assez extraordinaire sur papier. Ça pourrait nous surprendre comme étant le fight of the night auquel on s'attend pas vraiment parce qu'on a un Brandon Royval, je le considère comme un peu dans la même catégorie que Tony Ferguson, Corey Sandhagen, Bilal Geo, Lando Vanata. Ce sont des gars qui ont tellement confiance en leur compétences et au fait qu'ils sont dangereux, peu importe la position, même s'ils sont pris en monte, même si l'autre a le dos, qu'ils nous offrent des combats qui sont absolument extraordinaires parce qu'ils sont constamment à la recherche d'activité. On a eu Royval contre Bontorin qui a essayé de faire une belle Al-Mohamed, qui a essayé de le conserver, d'arrêter toute l'activité possible et imaginable. Et on regarde ce combat, c'était peut-être pas le plus extraordinaire de Royval, mais on le voit constamment à la recherche de quelque chose, quitte à perdre des positions. Et j'apprécie ça énormément chez des combattants, même si, stratégiquement ou à la recherche absolue d'une victoire, c'est pas top, c'est quelqu'un qui se bat pour offrir du spectacle. À mon avis, c'est quelqu'un qui se dit, je regarde déjà assez Netflix, je vais pas ne rien faire dans une cage, le peu de temps que je passe dans la cage, c'est pour faire quelque chose. Et c'est vraiment le type de profil que moi j'apprécie énormément, même si de temps en temps, ça joue contre eux, ils perdent en efficacité et ça joue pas bien pour leur carrière, mais c'est vraiment un combattant absolument extraordinaire. Et de l'autre côté, on a Schnell, qui est arrivé à l'UFC comme un gros bagarreur, et qui devient de plus en plus technique suite à ses défaites. Donc c'est quelqu'un qui prend les leçons de ses défaites. Mais là par contre contre Royval, j'ai l'impression qu'il risque d'être provoqué dans une bagarre et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que les deux sont très compétents partout. Schnell a un très bon jeu de feinte, Royval il est ultra actif debout, très très bon scramble de part et d'autre, très bon jeu de soumission du côté de Matt Schnell, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner comme dynamique. Donc je voulais juste prendre deux minutes du temps du podcast pour quand même souligner la présence de ce combat en sous-carte pour motiver les gens à peut-être ne pas faire une sieste avant, mais au moins regarder celui-là en live.
Et Royval,
en plus, Royval qui a quand même battu Kai Kara France et Tim Elliott.
Si vous n'avez pas vu ces combats, enfin, allez, en fait, ceux qui connaissent pas bien Royval, allez voir tous ces combats. Vous ne regretterez vraiment pas.
Mais oui, ouais. Matthew Schnell, j'avais vu dans un combat assez spectaculaire également. Et puis Big Rusty a quelque chose à ajouter. C'est que Royval a un surnom que Rust apprécie particulièrement. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer ce que ça signifie.
Raw Dog. Après, c'est pas. Je crois que c'est pas. Est-ce que c'est le même délire que, Darren Till et Mike Perry? Genre, I'm gonna raw dog your girlfriend, c'est pas ça?
Si, c'est exactement ça.
C'est exactement ça.
Attends, donc c'est son surnom, ça?
Ouais.
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire levrette ou ça veut dire à sec? Je sais plus.
Bon, allez, sur ce, messieurs, on va vous souhaiter une bonne semaine.
Que plus personne n'est là. Putain.
Une bonne Fight Week. On se retrouve dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, je sais pas si c'est le bon moment pour dire big shout out à my sweet pea, mais en tout cas, on le dit à my sweet protein. Et Chris avait préparé un message pour Onae, je crois.
Ouh, attends, je prends. Bon.
Oula, il prend.
J'ai le temps, il nous reste 5 minutes. Hop. Voilà. Alors les gars, après avoir vidé le précédent, j'en avais fait un petit podcast. J'en avais fait une petite pub en disant que c'était 13 centimes le lavage pour l'homme moyen. J'ai lancé le DM. Le Durden. Durden, je suis passé de 6 à 8, alors que ça faisait super longtemps que je stagnais avec 6. Je parle évidemment de nombre de femmes de combattants dans mes DM.
Oh.
Donc, je suis passé de 6 à 8, ça m'a fait augmenter de 33%. Donc, le Durden, je sais pas, vous allez peut-être pas me croire, je sais pas si c'est l'odeur qui se transfère au travers de mes stories Instagram ou si le fait de sentir si bon me donne une confiance en moi qui se fait ressentir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette attractivité sexuelle a augmenté de 33,3%. Alors, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles à ça. La mauvaise nouvelle, notamment, elle est pour toi, Rust. Tu es déjà au maximum. Non. Quand tu es à 100%, tu peux te laver autant de fois avec le Durden que tu veux, ça reste à 100%. Donc désolé, tu as déjà la chance d'avoir cette
attitude
sexuelle au top du top. Il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est que 0 x 1.33, ça fait 0. Donc désolé à ceux qui sont à 0 au niveau des gonzesses. Bref, tout ça pour vous dire, les gars, Durden augmente l'attractivité sexuelle.
Oh wow. Là 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 là.
On est parti dans un univers que je pensais jamais.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.